Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Bonjour, ici Louis Vindel. Vous m'avez peut-être écouté dans Passage, aux côtés de Solal, mais aujourd'hui je vous dis deux mots sur Lettre Zola, une publication soutenue par Louis Média. La promesse de Lettre Zola, c'est d'amener la littérature dans votre boîte aux lettres. Chaque mois, recevez un texte original et inédit par une jeune plume française. Un petit livre d'une cinquantaine de pages, grâce auquel vous pourrez vous plonger dans un sujet de société et découvrir les nouveaux visages de la littérature contemporaine. Mathieu Palin, Blandine Rinkel, Arthur Dreyfus, Abigail Assor, François-Henri Désérable et bien d'autres. Vous pouvez vous abonner à partir d'un peu plus de 6 euros sur www.lettrezola.fr. Bonne écoute et bonne lecture.
Louis. Il y a cette idée que le risque, ce serait une forme de courage. Qu'oser prendre des risques, c'est être valeureux, c'est être prêt à vivre vraiment, à vivre plus intensément, à éprouver des sensations fortes, que la prise de risque se situerait du côté du bien. Mais quel genre de risque vous seriez prêt à prendre et pourquoi ? Pour ressentir un peu d'adrénaline ? Pour vous prouver que vous pouvez sortir de vous-même ? Cet épisode bonus de Passage vient illustrer un épisode de notre podcast Émotion sur la prise de risque que je vous invite à aller écouter. C'est une histoire signée Julia Kunsley.
Alors moi, après avoir grandi dans le sud-ouest, j'ai bougé à Strasbourg pour faire mes études, des études de communication visuelle, à partir de mes 18 ans. Donc là, on est en 2008. Et je découvre Strasbourg et son école.
Moi, je viens du sud-ouest, d'un petit village dans les montagnes. Et j'arrive à Strasbourg pour faire une école de communication. Je pense que j'ai 18-19 ans. Je suis une vraie provinciale qui n'a jamais monté à Paris, qui a pris le train pour la première fois pas longtemps avant, qui n'est jamais trop sortie de cette campagne-là. Une petite voix blanche assez naïve qui arrive dans un milieu qu'elle ne connaît pas du tout, qui est le milieu de l'art, de la communication. Et du coup, c'est, tout est de la découverte. La ville, les transports. Je rencontre là-bas Charles. Assez rapidement dans les premiers jours et d'autres groupes de personnes qui vont devenir des amis.
Très rapidement, en première année de l'école, il y a un groupe qui se forme très soudé. On passe toutes nos journées ensemble, que ce soit dans les ateliers à l'école ou en dehors, que ce soit dans les appartements en colocation ou dans les soirées qu'on peut faire les uns avec les autres. C'est un groupe très varié, très diversifié. On vient des quatre coins de la France. Un peu tous les profils possibles, des milieux parfois agricoles, parfois presque bourgeois.
Tout commence à la soirée d'intégration de cette école qui se passe sur les quais à Strasbourg. Une amie de ce groupe de potes qu'on s'est créé en début d'année arrive avec une bouteille d'Armagnac à 180 euros qu'elle nous dit avoir volée juste avant dans un magasin. Elle est très bonne. Elle est vraiment très bonne. Et donc la soirée se passe très très bien avec cette petite Armagnac. Ça me paraît complètement fou. Déjà d'avoir une bouteille qui coûte ce prix-là, qui est la moitié de mon loyer, qu'on va torcher en une soirée. On est tous un peu fascinés par son larcin, quoi. Parce que pour la plupart, on vient un peu du même milieu, assez bon élève, premier de la classe. Et puis tout d'un coup, c'est un monde qui s'ouvre, quoi. Elle, c'est une habituée. C'est vraiment une fille à tête brûlée, qui n'a pas trop de limites dans sa vie et... Tout est possible pour elle, en fait. Après cette bouteille, il y a un défi qui est lancé.
L'une de nous propose de faire un dîner à 120 euros. C'est-à-dire que pour pouvoir accéder à ce dîner-là, il faut apporter un cadeau ou des cadeaux de la valeur de 120 euros et qu'ensuite on dégustera tous ensemble un repas pour l'équivalent de 120 euros par tête en mai et 20. Ce dîner, c'était un peu la mise en application de plusieurs semaines de pratique et ça nous permettait de célébrer en fait cette nouvelle ère.
Oh, moi, ça me fait rire, mais je suis incapable à ce moment-là de me dire je vais voler quelque chose. Ça me paraît vraiment très loin pour moi à ce moment-là. La seule chose que j'ai volée, ça doit être un bracelet dans un magasin de plage en été. Mais ouais, je suis vraiment très loin de... d'être une voleuse.
Moi, je me dis, je vais pouvoir leur montrer un peu mon ingéniosité. Et j'ai hâte de voir aussi ce qu'ont fait tous les autres. C'est pas vraiment la concurrence, mais il y a une sorte de surenchère qui est en jeu, de défi entre nous, mais qui n'est jamais explicite. Hein. C'est plus une question d'émulation. Et donc, chacun rivalise d'ingéniosité pour trouver des cadeaux un peu loufoques. Et donc là, le but, c'est vraiment pour moi d'en mettre plein la vue. Du coup, moi, je me dis, je vais offrir un trésor, en fait. Et au sens à peu près littéral, parce que en fait j'ai offert un lingot doré et des pièces d'or qui étaient en fait du chocolat de très bonne qualité de grande marque que j'avais fondu sous forme de lingots et de piécettes pour ensuite l'offrir sur un coussin en velours rouge. Le problème, c'est que pour faire ce lingot, il faut énormément de chocolat. Et donc, je dois voler des dizaines et des dizaines de plaquettes de chocolat avec toujours la même marque et le même type de chocolat. Parce que l'idée, c'était quand même que ça reste quelque chose de mangeable et d'appréciable. En fait, chaque vol de plus, c'est un peu une confirmation qu'on est capable de faire ça et qu'on a de quoi. Et on a une confiance en soi, en fait, qui grandit au fur et à mesure, qui va avec cette prise de risque. Donc plus la prise de risque est grande, plus la confiance en soi qui va avec grandit également. Donc ça se passe dans une épicerie fine d'un grand magasin. Et à chaque fois j'y allais, je me demandais, est-ce que ça suffit? Est-ce que je peux en prendre d'autres? Et vu qu'il fallait que j'y retourne plusieurs fois, à chaque fois l'excitation montait parce qu'on va chercher la même chose au même endroit, dans le même magasin. Et donc le risque de se faire prendre augmente à chaque fois. Et donc l'excitation qui va avec, l'adrénaline qui va avec, le risque qui est associé au vol, c'était en fait le but recherché. Le but, c'était pas forcément d'acquérir un nouvel objet gratuitement, c'était plutôt de retrouver à chaque fois cette sensation, cette adrénaline qui envahissait tout le corps. Parce que voilà, y a quelque chose qui se passe physiquement, corporellement, qui est très fort et qui nous fait savourer en fait chaque seconde une fois les portiques passées ou même avant, parce que du coup on est dans l'instant présent à un point ultime. C'est devenu très rapidement un jeu.
Moi à ce moment-là, je refuse de participer à ce repas. Donc j'ai le droit de venir à l'apéritif. Quand j'arrive, ils sont tous ultra sapés en mode grosse soirée snob et je me sens à la fois un peu plus de ce truc-là où tous mes potes participent et je suis la seule à pas avoir eu le courage de voler quelque chose. Et en même temps, ça m'amuse de les voir faire ça. Donc, c'est un sentiment un peu partagé.
Le jour J arrive, c'est le soir du dîner. Et donc, on se retrouve dans un appartement un peu miteux à Strasbourg, autour d'une très belle tablée, avec des beaux couverts volés, des belles assiettes volées, des belles chandelles volées. On a fait un effort en mettant nos plus beaux vêtements volés pour cette soirée mémorable. Et donc chacun est arrivé avec son offrande pour notre cuistot et notre hôte de la soirée, avec des repose-couteaux à 50 €, des choses comme ça qui n'avaient aucun sens.
Et après, quand le repas commence, on me dit « bon, ben voilà, tu dois sortir maintenant ».
Seuls ceux qui ont entre les mains 120 € de cadeaux pour payer, entre guillemets, leur repas, sont conviés, et donc ça exclut plusieurs personnes, dont Mathilde.
À ce moment-là, je me pose pas spécialement de questions, je me dis juste que moi, je m'en sens pas capable et je veux pas me forcer à le faire, juste pour être avec eux, quoi. Donc ça me dérange pas plus que ça de partir après l'apéritif. À partir de la soirée, ils commencent tous à voler un petit peu dans les magasins, à faire des expériences, à voler des fringues hors de prix, genre des marques que j'ai jamais même osé regarder dans les magasins, des fringues improbables. Et puis ouais, et surtout de la bouffe, du saumon, du foie gras, enfin des mets qu'on n'utilise qu'à Noël normalement. Et on se fait vraiment des gros festins. Et c'est à ce moment-là que je me dis, mais ouais, moi aussi, en fait, ça a l'air facile, j'ai envie d'essayer. Je commence à avoir envie de tenter de voler des trucs dans les magasins, mais je m'en sens tellement incapable que je vais demander à cette amie tête brûlée de m'aider, en fait. Et je lui demande de m'accompagner dans un magasin pour essayer de voler quelque chose. Donc on arrive dans ce grand magasin, on fait un peu le tour, et là, elle me dit que tout est possible, en fait. Je peux prendre à peu près ce que je veux. Et donc, je décide de prendre un pull en cachemire. Et là, elle m'enseigne. Elle me dit, bon, ben là, on va prendre le pull, on va aller en cabine d'essayage. On va dans la cabine d'essayage, et elle me montre comment enlever l'antivol avec des ciseaux, en fait. Donc, elle découpe le pull. fait un petit trou pour enlever l'antivol. Et elle me dit, tu vois, après on recoud et c'est bon, c'est tout, tu le mets dans ton sac et c'est fini. Donc on sort de la cabine. Moi, je suis terrifiée. J'ai l'impression que tout le monde nous regarde, que tout le monde est suspicieux, qu'on a l'air trop louche à traîner dans ce magasin. Et elle le fait avec un naturel incroyable. Au moment où je passe les portiques, je me liquéfie totalement. Le vigile est à l'entrée. Du coup, je me sens obligée de lui dire au revoir avec un grand sourire pour que ça passe. Je transpire, j'ai le cœur qui bat. Non, c'est horrible. Et puis finalement, on passe le portique et puis rien ne se passe. Une fois que je sors, c'est une sensation vraiment d'euphorie. J'ai l'impression d'avoir bu 10 shooters de rhum, d'avoir fait une nuit blanche en même temps. Je suis à la fois épuisée et à la fois hyper heureuse. C'est un shoot d'endorphine, quoi. Je me sens le courage tout d'un coup de me dire je vais pouvoir le refaire toute seule cette fois-ci. Je pense qu'à ce moment-là, il est question de me prouver quelque chose à moi-même. Parce qu'il y a aussi le contexte de l'école, de toute la découverte et tout ça, où j'ai l'impression de sortir aussi de moi-même et de sortir aussi de mon milieu par les rencontres que je fais. Et donc c'est vraiment prouver à moi-même que je suis capable de repousser un peu toutes les limites que mon éducation m'a fixées. Mon père est militaire, donc c'est vraiment une éducation où on ne transgresse pas, quoi. On respecte les règles, on fait son lit le matin. Je me rends compte que ça commence à me peser, en fait, cette éducation. Et j'ai envie de sortir un peu de ça.
Après ce dîner, là, c'est l'escalade. C'est-à-dire que je vais chaque jour voler dans les magasins et même plusieurs fois par jour. C'est-à-dire que je rentre dans un magasin, je remplis mon sac, je remplis mes poches. Je vais chez les amis qui habitent le plus proche, je vide mon sac. Et j'y retourne. Heureusement, mon appartement s'encombre pas trop parce qu'en fait, je passe mon temps à faire des cadeaux à mes amis, à ma famille, à mes proches. Donc ça me permet de me débarrasser de mes larcins parce qu'en fait, ce qui m'intéresse, c'est pas vraiment les objets, c'est toujours cette quête de l'adrénaline qu'on recherche toujours plus. Et puisqu'on s'habitue, on va aller dans des choses de plus en plus risquées, de plus en plus flagrantes dans le vol, même si on sait que c'est stupide, même si on connaît les risques. Je vais notamment à Ikea avec une copine. Et on décide de dévaliser le rayon gourmet d'IKEA. Et là, je vois un immense saumon fumé qui doit faire plus d'un mètre de longueur. C'est un mastodonte. Alors, j'avais pas spécialement prévu de manger du saumon fumé, mais puisqu'il était grand, puisque c'était compliqué à voler, je le veux. Et en fait, le seul endroit où je peux le cacher, bah, c'est dans mon dos. Du coup, je me penche en avant, ma copine me l'enfourne sous la chemise avec le froid glacial du saumon dans le dos. Je me relève, ça passe crème, et je marche, l'air de rien. Et un, en sortant vers le parking.
À ce moment-là, c'est voler pour s'amuser, parce que pour l'adrénaline que c'est de passer les portiques avec quelque chose dans son sac, et puis pour le challenge, quoi. Et aussi pour montrer à chacun, alors toi t'as pris quoi ? Oh putain, t'as réussi à prendre ça, c'est incroyable. Il y a aussi une surenchère de ce que chacun arrive à voler. Charles, lui, oui, il est très vite dans la surenchère. Ça va être un de ceux qui repousse le plus les limites. Donc, il va y avoir, oui, ce saumon entier qu'il va mettre dans son dos. Je crois que ça l'amuse tellement. Et il a tellement envie aussi d'être au niveau que ça va être un de ceux qui volent le plus, au final, qui va faire les trucs les plus fous.
C'est vraiment un cap, en fait, qui est passé. On est dans la surenchère permanente. Il y a une vraie addiction qui se met en place et dont je me rends compte assez rapidement, mais qui ne me dérange pas plus que ça, hein, parce que je continue à très bien manger, à être de mieux en mieux habillé. Et plus on est bien habillé, plus c'est facile d'aller voler dans les magasins, puisqu'on passe complètement inaperçu. Il y a une sorte d'élite de faciès inversé, où plus on est bien habillé, plus on est blanc, évidemment, moins on va être suspecté par les vigiles et par les caissiers et les caissières. Dans ma famille, la prise de risque, c'est pas quelque chose qui est forcément recommandé et admiré, mais étant dans une famille nombreuse et l'un des derniers, à partir d'un certain nombre d'enfants, on fait un peu moins attention, et c'est vrai qu'en fait, c'était assez accepté que, personnellement, je prenne des risques d'un point de vue de scolarité, de changement de ville. Bon, et après, ils savent bien sûr rien de toutes ces histoires de vol à l'étalage.
Quand on rentre dans les magasins, c'est le premier truc qu'on fait, c'est de regarder automatiquement où sont les caméras, quelles sont les mises en place de sécurité, où sont les vigiles. Ce qui est très drôle, c'est qu'on se rend compte que il y a des mecs qui sont habillés en civil, qui tournent dans le magasin, qui sont des vigiles. Et en fait, ils ont un panier où il y a toujours deux articles. Et ils ont beau rester 15 minutes dans le magasin, il y a toujours deux articles dans ce panier. Donc là, c'est sûr qu'ils sont grillés, quoi. toute une analyse, en fait. Et souvent, quand on se retrouve, ouais, on cherche sur Internet, on se renseigne sur la façon dont ça fonctionne. Je pense que je l'oublie un peu, ce risque. Quand je vais faire mes courses et que je mets un truc dans mon sac, maintenant, je pense même plus. Des fois, j'oublie que j'ai un truc dans mon sac quand je passe les barrières, quoi, de sécurité. Le tournant, ça va être un voyage à Dunkerque.
Un jour, on part à Dunkerque en vacances avec des copines en voiture.
On est une équipe de trois à arriver à Dunkerque avant les autres. Et moi, je suis avec Charles et une autre copine. Et on ne sait pas trop quoi faire.
En arrivant, on a faim. On passe au supermarché prendre de quoi manger. Donc évidemment, sans payer, ou peut-être une bouteille d'eau. Un peu de jus d'orange frais, un peu charcuterie, tout ça. Et puis après, on se dit, bon, c'est bien de manger, mais comment est-ce qu'on s'habille? Du coup, on voit un Zara à côté, ni une ni deux, on rentre dedans. Je dis aux filles, écoutez, dites-moi ce qui vous fait plaisir, c'est moi qui offre. Hein. Moi, j'aime bien faire des cadeaux, surtout quand ça me coûte rien. Mathilde repère une petite veste de tailleur pas mal, et mon autre ami repère un combi short. Je me dis, je vais pas m'embêter à enlever les antivols, surtout que, bon, moi, aller en cabine avec une combi short et une veste de tailleur pour femme, ça paraît un peu louche. Je vais faire une technique que j'avais déjà fait une fois avant. C'est celle qui rapporte le plus d'adrénaline, parce que c'est la plus risquée. En fait, plutôt que de passer à travers le portique, il suffit de passer au-dessus du portique pour pas que ça bip. Donc, pas besoin d'enlever les antivols, ça, on le fera tranquillement à la maison avec tout le matériel nécessaire.
Bah, c'est un peu l'attitude de Charles... de se la péter un peu sur la fauche, quoi, parce qu'il est trop content, c'est un de ceux qui va le plus loin. Moi, ça me fait rire, je le connais, ouais, c'est juste pour s'amuser, quoi. Plus c'est gros, plus ça passe, quoi.
La vendeuse est occupée au fond de la boutique, on me dit « c'est bon, tu peux y aller ». Je passe le portique en levant les bras avec, au bout des bras, des affaires volées. Et voilà, les portiques sont passés, ça n'a pas bipé, bien entendu. Donc je commence à éclater de rire parce que c'est un peu gros comme technique. Sauf qu'à la sortie, eh ben, il y a l'autre vendeuse qui est en train de fumer sa clope et qui me voit mort de rire avec entre les bras des affaires encore sur des cintres. Voilà, c'était tout à fait flagrant de là où elle était.
Et donc il se met à faire ça et moi je suis en retrait à ce moment-là dans le magasin puisque je traîne un peu. Et en fait, il se trouve qu'il y a une caissière qui est dehors en train de fumer sa clope, qui le voit, et qui va commencer à lui crier dessus, et il va se mettre à courir. La caissière va se mettre à courir aussi, mon ami devant va se mettre à courir, et je les vois disparaître. Et moi, je suis derrière, et je me dis, oh là là, mais qu'est-ce que je fais?
Elle commence à mal paguer, et je me retourne, je la vois, et là, je me dis, merde. Je commence à courir le plus vite possible, les copines derrière moi partent aussi en courant, on part dans des directions différentes. Elle finit par me rattraper. Elle me prend les affaires des bras, moi je les reprends, je dis non, c'est à moi. De manière tout à fait stupide et en fait incontrôlée. Et finalement, je finis par la suivre parce que je me dis c'est pas très grave, il va rien m'arriver. J'ai déjà très honte, je me suis bien affiché. Sachant que le but principal de ce coup-là, c'était quand même de faire le malin devant les copines. Donc, mission complètement ratée.
Donc, je suis à Dunkerque, toute seule dans la rue. Il y a un petit monsieur qui vient me voir en me disant « Si vous cherchez vos amis, il y en a une qui est cachée dans un coin et l'autre, il est parti avec la police. » Je le trouve très sympa de me dire ça, mais j'ai tellement peur que quelqu'un m'associe à eux que je lui dis « Ah non, mais ah non, je les connais pas, moi je me balade juste, je fais genre que je suis pas avec eux, quoi. » Donc je retrouve mon ami dans l'endroit que m'a indiqué le monsieur. Elle s'est réfugiée dans une cour intérieure de maison. On échange nos fringues, je prends son pantalon, elle prend mon pull pour brouiller les pistes. Et puis on se retrouve dans la rue et on n'a plus qu'à attendre que Charles sorte du commissariat et en fait ça va prendre plusieurs heures.
Les policiers m'amènent au poste et une fois là-bas, évidemment, ils ouvrent mon sac et ils me demandent bah, toutes ces affaires, c'est-à-dire les affaires du pique-nique, ça aussi tu l'as volé, hein, c'est sûr. Moi je leur dis pas du tout, c'est notre pique-nique qu'on a embarqué de Strasbourg ce matin, il y a 5 heures. Et là le policier me dit mais le jus d'orange, il est encore frais, enfin... Et là, bah, moi, je me décompose parce que j'avais absolument pas pensé à ça. Donc le policier me dit « Mais tu te fous complètement de ma gueule, tout ça, tu l'as volé, on va aller regarder les caméras du supermarché. » Évidemment, là, bah, je peux plus rien dire et j'assume tant bien que mal les faits et de lui avoir menti en plus par-dessus le marché. Donc je m'en tire avec une convocation, a priori, en attente un jour, quelque part. Mais encore une fois, j'ai toujours le sentiment... quand je suis au poste, d'être dans un film, en fait, de vivre une action presque pas télévisée, mais fictive. Et du coup, je me dis, heureusement, je ne me suis pas fait prendre pour le coût de la veste en cuir à 500 € ou des plus gros coûts qui m'auraient amené beaucoup plus d'embrouille. Du coup, je décide d'arrêter complètement parce que j'ai trop peur de me faire attraper de nouveau et d'avoir des vraies conséquences judiciaires derrière. Et donc, c'est une rupture du jour au lendemain de mon addiction, sans trop de manque, parce que j'étais tellement apeuré par la suite que ça compensait, en fait, cette adrénaline.
Et puis, à partir du moment où lui, ça l'amuse plus, nous, ça nous amuse un peu moins. Et puis, on va se faire aussi tous choper à un moment plus ou moins proche de cet événement. Il y en a que ça refroidit pas du tout et notre ami tête brûlée s'en fiche complètement de s'être fait choper.
Bah, en fait, je retrouve mon quotidien d'étudiant précaire qui est en plus mis en parallèle du quotidien de mes copines qui, elles, continuent toujours à dérober, à dévaliser les magasins. Je les regarde un peu avec envie et en sachant quand même que ce monde-là ne m'est plus accessible car j'ai trop peur, en fait, de ce qui pourrait arriver après.
J'arrête pas le vol du jour au lendemain. Je vais arrêter par voler des fringues, des choses comme ça, parce que de toute façon, je les volais pas par utilité, donc ça me manque pas. Après, pour quand je fais les courses, ça prend du temps avant que je mette plus rien dans mon sac, par contre. Quand on fait les courses, des fois, on achète toujours les mêmes produits, et ben nous, on vole toujours les mêmes produits, en fait. Et ça rentre dans l'habitude. Je vais voler du pesto un peu plus chic que le pesto des marques repères des magasins. C'est un peu dur quand t'as volé du Comté 24 mois de devoir manger du Comté 6 mois parce que t'as pas les moyens d'acheter l'autre, quoi. Forcément, plus on vole, plus on a de risque de se faire choper. Moi, je vais avoir comme ça une mésaventure. J'attends un covoiturage, je m'ennuie, je vais au supermarché pour voler un truc. Puis je prends une brosse à dents et je sors Et là, je vais devoir discuter pendant un quart d'heure avec le vigile pour savoir si je l'ai vraiment acheté ou pas. Et j'arrive à l'embobiner et à sortir, mais bah ouais, ça devient plus trop drôle.
La plupart arrêtent, certaines continuent encore aujourd'hui, pour des raisons financières, mais aussi encore et toujours pour ces raisons d'adrénaline. Moi, si c'était à refaire, je referais tout pareil, sauf que cette fois-ci, je me ferais peut-être pas attraper, avec le risque qu'il y ait une escalade encore plus importante dans les faits.
Aujourd'hui, je serais plus capable de voler dans les magasins. J'aurais plus cette inconscience-là, parce que je me dirais, non mais quand même, c'est chaud. Après avoir arrêté, on se remet à avoir peur, en fait. Ce risque, je le lie aussi à l'âge que j'avais à l'époque, au fait qu'on avait 20 ans tous en même temps et qu'on avait envie de décrocher les montagnes, quoi. Et c'était une période hyper enrichissante, en fait, au final.
Ce que je retiens surtout, c'est l'amitié qui était autour, plus que les faits eux-mêmes. Ça nous a vraiment soudés, en fait, de faire ces méfaits ensemble. Ça soude parce qu'on se dit, si moi je me fais attraper, peut-être que lui aussi. Et souvent, on prend des risques pour les autres. On est le complice l'un de l'autre et complice dans le méfait. C'est une preuve de confiance et d'amitié très forte.
Ses amis, la plupart, je les revois encore. On a gardé contact. C'était vraiment devenu des amis, des amitiés très fortes. D'avoir peur ensemble, de prendre des risques ensemble, forcément, ça a aussi créé notre amitié.
Avec Mathilde, on se voit encore régulièrement. Et encore aujourd'hui, je pense que personne n'a de regret d'avoir volé tout ça. Et c'est vrai que régulièrement, on repense à cette période-là et on se dit quand même, on s'est bien amusé et qu'est-ce qu'on mangeait bien, quoi. Ça me rappelle plein de bonnes choses. Demain, je vais recommencer.
Si vous avez aimé cet épisode, je vous invite à aller écouter celui du podcast Émotion qui décortique la prise de risque et à vous abonner sur les plateformes d'écoute. Cet épisode bonus a été tourné et monté par Julia Consley sous la responsabilité éditoriale de Maureen Wilson. Maureen était aussi à l'édition et à la coordination avec Maud Benakcha. L'épisode a été mixé par Jean-Baptiste Aubonnet, Marion Girard est responsable de production et Mélissa Boudnois, directrice des productions. Le générique de passage a été composé par November Ultra. Je suis Charlotte Pudlewski et Passage est une production Louis Média. Vous pouvez vous abonner sur toutes les plateformes de podcast, nous laisser des commentaires et des étoiles et en parler autour de vous et partager sur vos propres réseaux sociaux. Et si vous souhaitez soutenir Louis, n'hésitez pas à vous abonner au club louismedia.com/club. À très vite. So.
brought to you by Lexus. Some things do more than their stated functions, because exceptional things inspire you to do exceptional things. To this select list, we add the all-new Lexus GX. With its exceptional capability, you'll see possibilities you never knew existed, sending you far outside your comfort zone. But as much as the GX challenges you, it also spoils you. Its intuitive technology and luxurious features mean that wherever you go, you'll never go without. Live up to it. The all-new Lexus GX.
Hi, this is Craig Robinson from Ways to Win, and support for this podcast comes from Invesco QQQ, the official ETF of the NCAA. Invesco QQQ is proud to sponsor this episode and even prouder to provide access to innovation for the last 25 years. Basketball has had innovations over the years, too. We're seeing the game played in new ways every day. Learn more at Invesco.com/QQQ. Let's rethink possibility. Invesco Distributors, Inc.